Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtha et de Térech, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Ahasuérus. Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela ?»« Il n'a rien reçu, » répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, « Qui est dans la cour ?» Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Aman qui se tient dans la cour. » Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit en lui-même, « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ?» Et Aman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Le roi dit à Aman, « Prends-tu de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif, qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. » Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, et il promena à cheval à travers la place de la ville et cria devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, Zeresh, sa femme, lui dirent, « Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Comme il parlait encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther pendant qu'on buvait de vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Que nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Ahasuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est celui qui se propose d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. » Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine, et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le village d'Aman. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, hein, « Voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. » Le roi dit, « Qu'on y pende Aman !» Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Voilà, nous étudions le livre d'Esther. Le peuple de Dieu se trouve dans un pays hostile, en tant que minorité, dans cet environnement hostile à leur foi. C'est intéressant parce que c'est une époque sans prophète, sans miracle, sans réveil spirituel. Quand on lit le livre d'Esther, on dirait que la foi du peuple est un peu en baisse, en veille. Et puis, il se trouve dans des situations où c'est vraiment pas évident. C'est-à-dire, il n'y a pas un verset de la Bible qui dit « Si tu es une jolie fille et que tu es prise pour être dans le harem d'un roi divorcé, voilà comment il faut se comporter. » Alors tout ça fait que l'époque d'Esther ressemble pas mal à la nôtre en France. Mais malgré les apparences, Dieu est là, il guide son peuple, il reste fidèle à ses promesses et il est en train d'opérer la délivrance. Et ici, les chapitres que nous avons lus, c'est, voilà, on va dire que c'est la meilleure partie de l'histoire. C'est quand la situation se retourne complètement, de manière inattendue. Ça s'appelle un coup de théâtre en littérature. Un coup de théâtre, c'est le moment où les choses basculent. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'histoire, mais pour la première fois, on peut s'attendre à une fin heureuse. Et c'est vrai, ici, tout bascule. Au début du chapitre 6, Aman, il est au sommet de la prestige, la gloire. Et à la fin du chapitre 7, il est pendu dans la honte la plus totale. Tout bascule et c'est une belle histoire. Il me semble que ça illustre si bien cette réalité gravée au cœur de l'univers, que l'orgueil précède la ruine, que Dieu il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et Aman, il représente tout le monde anti-Dieu, tous les projets anti-Dieu, orgueilleux, égoïstes, et on voit bien quelle sera la fin. Alors ce matin, nous voulons justement éviter vivre ce trajectoire d'Aman, ce trajectoire qu'a pris le monde sans Dieu. Nous voulons l'éviter. Alors, dans cette histoire, je propose de voir la grosse tête, la grande chute et comment éviter les deux. La grosse tête, la grande chute et comment éviter les deux. Le personnage d'Aman que nous allons étudier ce matin, oui, c'est la grosse tête par excellence dans la Bible. C'est l'orgueilleux, c'est l'égoïste qui s'étale devant nous. L'orgueil, c'est cette préoccupation constante de soi-même. Ce désir toujours de diriger l'attention, diriger les honneurs vers soi. C'est aussi le trait le plus inné de la race humaine. Ici, nous le voyons en grandeur nature chez Aman, mais il se trouve chez nous tous, l'orgueil. Peut-être la première question à se poser, c'est pourquoi l'orgueil serait un défaut plutôt qu'une qualité ? J'ai lu que dans certaines cultures, à certaines époques, l'orgueil, c'était vu comme quelque chose de bien. Mais en général, encore aujourd'hui, on pense que l'orgueil est plutôt une mauvaise chose, en tout cas quand on la voit chez l'autre. Au début du livre Les Frères Karamazov, l'un des personnages dit « S'il n'y a ni Dieu, ni immortalité, l'orgueil serait une grande noblesse ». Mais au fond de nous, nous savons que l'orgueil n'est pas une grande noblesse. C'est que l'univers est conçu ainsi. Ce n'est pas nous qui sommes au centre de l'univers, c'est Dieu. Alors pourquoi l'orgueil est si méprisable, si terrible, comme on la voit chez Aman ? Mais tout d'abord, l'orgueil nous rend méchants. On a vu déjà jusqu'où pouvait aller la méchanceté d'Aman. Tout ça s'est poussé au fond par son égoïsme, son orgueil. Parce qu'il ne supporte pas que Mardoché soit au même niveau que lui. Quand Mardoché ne s'incline pas devant lui, c'est ça qu'il ne supporte pas. Alors, forcément, il doit le détruire. Et même, on voit ce qui motive un peu Aman. C'était à la fin du chapitre 5, on a lu ces versets la semaine dernière. Mais quand Aman revient chez lui, après avoir reçu l'invitation de souper avec le roi et la reine, voilà ce qu'il dit en verset 12. Et il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. » Je suis même le seul. C'est ça qu'il aime, c'est ça qu'il recherche. Être le seul, c'est-à-dire avoir un privilège que les autres n'ont pas. C'est l'orgueil et l'égoïsme qui nous dirigent ainsi. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas tant les bonnes choses qu'il va manger au banquet de la reine, c'est de savoir que lui va les manger et les autres ne vont pas les manger. C'est ça, ça nous flatte. Si tout le monde bénéficie d'un privilège, le privilège nous intéresse moins. Mais si on est les seuls et les autres sont privés, là, voilà, cette recherche d'honneur, cette recherche de distinction, c'est ce que l'orgueil nous pousse à vouloir. Donc, puisqu'il faut toujours être le seul à bénéficier d'un bien, il faut vouloir le mal, vouloir le supprimer aux autres. Et c'est ça qui dirige la plus grande partie des méchancetés des hommes, c'est qu'ils veulent, avoir un bien dont d'autres ne bénéficient pas. Si Aman était l'ami de Mardochée, s'il aimait son prochain, il aurait pu se réjouir de ce que le roi va décider pour lui. Ah, chouette, génial, c'est vrai que j'aimerais aussi, mais je suis content pour toi. Mais l'égoïsme et l'orgueil nous empêchent de se réjouir souvent quand d'autres reçoivent des bonnes choses, parce que on aimerait être le seul à les recevoir. L'orgueil nous rend méchants. Et puis la grosse tête, l'orgueil, ça nous rend bêtes. Là, Aman, on voit, il arrive dans la cour, et puis le roi, il vient de faire cette nuit d'insomnie, vouloir honorer Mardochée, mais Aman ne le sait pas, donc il arrive. Et puis le roi lui dit, verset 6, « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Et Aman se dit en lui-même, « Quel autre que moi ? Quel autre que moi ?» Alors, le roi aurait pu avoir bien des personnes en tête, hein, mais Aman est tellement imbibé de lui-même qu'il ne peut même plus réfléchir normalement, sagement, sainement. Quel autre que moi ? Forcément, il pense qu'à moi, puisque moi, je pense qu'à moi, alors tous les autres pensent qu'à moi. C'est évident. Il est incapable de réfléchir normalement, et c'est aussi l'égoïsme. Bousille notre intelligence, nous rend stupides, nous fait choisir des choses bêtes et stupides, parce que on ne voit qu'à sa propre personne, alors qu'il y a un monde autour de nous qui peut être dans le besoin, qui peut avoir des honneurs qui lui est accordé. Tout ça, on peut pas voir parce qu'on ne voit que soi-même. L'orgueil nous rend bêtes. Et puis l'orgueil nous rend malheureux. Même à la fin du chapitre 6, Aman, il va rentrer dans misérable, malheureux. Et puis toute cette histoire, ce n'est pas quelqu'un de joyeux. C'est quelqu'un de paniqué, de quelqu'un qui vit dans un paranoïa en quelque sorte, parce qu'il est avide de ses honneurs, avide que les gens le remarquent, avide que les gens le distinguent. Mais voilà, si une personne comme Mardochée ne s'incline pas devant lui, ça va gâcher toute sa journée, toute sa vie. Et puis s'il doit conduire, encore pire, s'il doit conduire Mardochée à travers la ville, là, il est malheureux, parce que dans cette recherche d'attention, cette recherche, cette vie égoïste, on n'est jamais satisfait des attentions qu'on nous donne, on n'est jamais comblé. Plus on est avide de recevoir les honneurs du monde, plus on est déçu, comme Aman l'est tout au long de cette histoire. Donc il ne peut que vivre dans cette désolation, cette tristesse. Certains jours, ça va aller mieux que d'autres, parce qu'on va lui accorder des distinctions, mais voilà, puisqu'il est tellement égoïste et que finalement la réalité ne tourne pas autour de nous, on est malheureux de vivre ainsi. Et ça, le personnage d'Aman nous aide à comprendre un peu d'où vient l'orgueil, d'où vient l'égoïsme. Cette phrase clé qui revient plusieurs fois dans le passage, je trouve intéressante. Que faut-il faire pour l'homme que le roi veut honorer ? Au fond, nous voulons tous être honorés. Et on voit qu'Aman, c'est sa vie. Il faut qu'il reçoive ses honneurs, cette distinction, cette approbation, le regard des autres. Il le convoite, c'est son identité. Quelqu'un disait récemment, j'ai entendu, ils disent les hommes peuvent convoiter les femmes et les femmes peuvent convoiter d'être convoitées. Ça, c'est la convoitise dans tous les sens, mais ça se manifeste différemment. Les hommes peuvent convoiter les femmes peuvent convoiter d'être convoitées. Ici, Aman, il convoite d'être convoité. C'est sa vie, il convoite d'être convoité. Et l'égoïsme nous pousse à vivre ainsi. D'avoir ce regard, cet honneur, ben c'est oui, c'est on le recherche, c'est valorisant, ça va au profond de notre cœur, de ce qu'on veut, mais Aman, tant qu'il vit comme ça, il va être malheureux. Ça, c'est la grosse tête et c'est un problème, le problème du monde. L'apôtre Jean, il résume tout ce qui est de ce monde, tout ce qui n'est pas de Dieu, n'est pas de l'amour de Dieu. Il appelle ça la convoitise de la vie ou bien l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est tout ce système mondain, la nature humaine contre Dieu. Cette grosse tête d'Aman, c'était le même qu'avait Satan quand lui, il a introduit l'origine du mal dans le monde. Il s'est comporté de la même manière. C'est lui qui voulait les honneurs. C'est lui qui voulait être assis à côté du grand roi, être au-dessus du roi. Donc, la grosse tête, ça revient depuis le début avec Satan. Et puis, c'est ce qui nous frappe, qui nous touche, nous tous. On le voit si bien chez Aman, mais ça nous aide parfois à dépister le côté peut-être un peu plus subtil chez nous. Donc ça, c'est la grosse tête. Et maintenant, voyons la grande chute. Parce que tout le message de ce livre, c'est que si on vit comme ça, eh bien forcément, c'est la grande chute. C'est une loi spirituelle que Dieu a décrétée. L'orgueil précède la ruine, la chute. Et c'est ce qu'Aman va vivre. Alors déjà, la chute d'Aman commence en chapitre 6, dès l'instant que le roi le demande de faire tout ça pour Mardoché. Alors c'est tellement formidable. Donc Aman conçoit les honneurs que lui-même il veut. Mais ce n'est pas pour lui, c'est pour Mardoché et il doit le faire pour Mardoché. Et donc à ce moment-là, c'est Aman qui va se retrouver en bas de l'échelle, en position d'esclave, qui conduit un cheval, et c'est Mardoché qui va se trouver en position d'honneur. Et là, c'est déjà intéressant de regarder ce que Aman conçoit comme le meilleure chose possible. Parce que on sait que ce qu'il demande au roi, c'est ce qu'il s'attend, ce qu'il aimerait recevoir pour lui-même. Et vous remarquez qu'il ne dit pas « Ah, pour le roi que l'homme veut, pour l'homme que le roi veut honorer, il faut lui donner, c'était quoi la semaine dernière, un château sur la Loire, une villa à Monaco et puis un Rolls Royce. » Ce n'est pas ce qu'il demande. Quelque part, il l'a déjà. Mais il cherche plus que ça. Il demande qu'on le revêt d'un vêtement royal et qu'il s'assise sur la monture, le cheval du roi. Alors c'est vrai, peut-être ça ne nous parle pas. Si la génie de la lampe vous offre vos rêves, ce que vous voulez, ce n'est pas sûr que vous voulez. J'aimerais que je puisse m'habiller dans la costume du président de la République et puis que je fasse un tour en ville en citoyen dessin. C'est pas ce qu'on demanderait nous. Mais à l'époque, les vêtements royaux, de pouvoir être là, assis sur le cheval du roi, C'était participer à la royauté, c'était être uni à sa personne, à sa gloire, à son honneur, à sa dignité. C'était partager ensemble la gloire, c'était de vivre en tant que roi pendant quelques instants. D'ailleurs, on a une autre histoire dans la Bible qui nous rappelle quand Jonathan donne ses vêtements royaux à David, son ami David. C'était pas juste, tiens, je te file un t-shirt souvenir de Jérusalem, mais c'était Jonathan qui comprenait à ce moment-là que David allait être son égal, voire plus. David allait partager. David, c'était le prince comme lui, mais le vrai prince. Et Jonathan, dans un geste d'humilité et d'amour, lui donne ses vêtements, son vêtement royal, pour dire, pour, voilà, honorer David en tant que le futur roi. Et c'est ce que Aman envoie dans la grosse tête qu'il a, c'est ça qu'il veut, c'est ce regard d'honneur, cette dignité au plus haut point, chose que même un château, une villa, une voiture, pas vraiment. Derrière ces choses, il y a cette soif de cet honneur, ce sentiment qu'il recherche d'être au sommet. Mais ce n'est pas lui qui les reçoit, c'est Mardoché. Mardoché va partager en quelque sorte la gloire du roi. Mardoché va être uni à la position du roi. Et déjà là, Aman se trouve en très mauvaise position. Parce que maintenant, s'il tente la moindre chose contre Mardoché, c'est vouloir atteindre le roi. C'est-à-dire quand maintenant, lui qui veut tuer Mardoché, il se présente pour demander la mort de Mardoché. Maintenant, il ne peut pas faire ça, parce que s'il demande la mort de Mardoché, c'est qui a protégé le roi, qui a sauvé la vie du roi, c'est comme s'il veut se mettre du côté des assassins. Alors là, il ne peut pas revenir et dire « j'avais une requête, c'est fini, il doit rentrer chez lui ». Tuer celui qui porte le vêtement royal du roi, c'est vouloir tuer le roi. Et sa femme a déjà compris que sa chute quasiment sûre. D'ici, tu commences à tomber. Et juste à ce moment, il rentre chez lui, désolé de tout ce qui vient de se passer. Et juste à ce moment-là, on vient le chercher pour repartir au festin que Esther avait préparé. Et pendant ce festin, effectivement, sa chute va être totale. C'est là où Esther dévoile le complot, désigne le meurtrier. C'est ce méchant-là. Et Esther s'était pris sagement jusqu'à présent avec ses plusieurs demandes, une côté très diplomatique même, pour qu'à ce moment-là, le roi est bien disposé et... au lieu de se mettre du côté de son copain Aman, il réagit comme il faut. Et il se met en colère. Pour une fois, c'est peut-être bien qu'un homme ici se mette en colère, parce qu'il se met en colère contre une bonne chose, contre un projet inique. Et donc, il va même faire un tour dans le jardin pour se calmer un peu. Et quand il revient à la situation encore pire, Aman est en train de plaider pour sa vie, mais... dans ses gestes, il semble qu'il est en train de vouloir faire violence à la reine. Et là, fini, sa chute est totale. On va le pendre sur le bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Donc, dans un coup d'un chapitre, le meilleur ami du roi devient sa pire ennemie et il est pendu. Et ce qui est fascinant dans cette histoire, si vous regardez bien, c'est que Aman est victime de ses propres pièges. La chute d'Aman, c'est sa propre conception. Un des proverbes dit, celui qui creuse une fosse, il y tombe dedans. Et quand vous pensez, tous les projets d'Aman se sont retournés contre lui. L'idée de faire un décret pour anéantir les Juifs, c'est ça qui va le perdre finalement, parce que ne sachant pas, il se prend à la reine. Les honneurs qu'il conçoit pour lui-même, eh bien, ça va se retourner contre lui parce que c'était pour Mardoché. Plaidoyer pour sa vie, ça va se retourner contre lui et ça va avoir l'air d'un acte de violence. Et puis la potence qu'il a construite pour Mardoché, ça va se retourner contre lui parce que lui-même va être pendu dessus. Alors ce livre se moque de la méchanceté. Ce livre se moque de l'orgueil... presque d'une manière comique. C'est dramatique, mais il y a un côté comique. Et le psaume 2, verset 4 dit « Celui qui siège dans les cieux, il rit. Le Seigneur se moque d'eux. » Les gens, avec leur machination inique contre Dieu, il y a un côté, et c'est dramatique, mais il y a un côté comique parce que le péché toujours se retourne contre la personne. Et c'est un avertissement pour nous tous. Vivre comme Aman, ça ne va jamais marcher. L'égoïsme, l'orgueil se retourne contre nous et nous détruit. La chute est garantie. Quelqu'un qui dit « c'est moi qui vais être le centre de l'univers, bon, je vais vivre par égoïsme, ça m'arrange », c'est comme quelqu'un qui dit « désormais je ne crois plus à la loi de la gravité, désormais je vais faire autrement ». C'est comique, mais c'est dramatique, avec des conséquences dramatiques. Et tel est le message de ce livre et de la Bible. Donc la grosse tête, la grande chute, comment éviter les deux? Comment éviter la grosse tête dans notre vie? Comment éviter cette chute qui garantit pour ceux qui vivent ainsi.
Et peut-être là, c'est comment gérer cette soif d'être remarqué, cette soif d'être honoré, ce désir d'être là, à côté du roi, d'être acclamé. On peut comprendre un peu Aman parce que nous voulons tous ce regard de la population autour de nous. Nous le cherchons. Nous voulons être honorés par les grands de ce monde. Et en fait, le problème de Aman, c'est qu'il, en fait, son problème, c'est qu'il n'a pas cherché auprès du bon roi, le vrai roi. Il pensait que ça pouvait venir des hommes. Il pensait que ça pouvait venir de voilà, de splendeur, magnificence de cet empire. Mais en agissant comme ça, il est devenu méchant et bête et malheureux et mort. Mais pour nous, le message de la Bible dit que, en fait, Jésus, il a un jour, il a fait pour nous ce qu'on a fait pour Mardoché. Il a fait pour nous ce qu'on a fait pour Mardoché, c'est-à-dire Jésus, lui, il a pris la position du serviteur devant nous, pour nous, et lui, il n'a pas fait la tête voilée, désolée, mais il l'a fait de manière joyeuse, volontaire. Et il nous a mis sur son trône, il nous a mis à côté de lui. Il nous a partagé sa gloire, sa royauté, son trône. C'est ça qu'il faisait à la croix. Hein. Il a pris la position de l'esclave, du serviteur, pour nous honorer, pour nous élever. Alors, que faire pour l'homme que le roi veut honorer? Et si vous étiez cet homme, cette femme que le roi veut honorer ce matin en vous donnant cette place par Jésus-Christ? Parce que si vous savez être honoré comme ça, si vous savez être aimé comme ça par un tel roi, vous n'avez pas besoin des honneurs du monde. Vous n'avez plus besoin de vivre cette vie d'égoïsme et d'orgueil. Parce que vous avez, Mardoché, il ne le cherchait pas, il a eu cette position merveilleuse. Aman le cherchait désespérément. Pour son propre compte, il a perdu. Et Dieu l'a donné à Mardoché et Dieu nous l'offre par Jésus-Christ. Il nous met sur son trône. Il nous revêt de sa justice, des robes pures de sa justice. C'est comme ça qu'on évite la grosse tête, c'est comme ça qu'on évite la grande chute, c'est quand on accepte ce que Christ a fait pour nous et qu'on laisse pénétrer nos pensées jusque dans notre cœur pour que ça brise cette nature humaine, cette nature orgueilleuse en nous. Dans cette histoire, pour terminer, c'est vrai que tout se joue rapidement dans quelques chapitres, hein. Tout le livre d'Esther, c'est 10 chapitres. Donc ça se joue assez rapidement. Dans l'histoire du monde, depuis le début de Satan jusqu'à la fin, oui, ça se joue moins rapidement. Ça se joue sur de nombreux siècles. Mais c'est ça le même schéma. La grosse tête de Satan, tout ce qui le suit, la grande chute, lui, Babylone, et tout le système mondain, vont connaître le même parcours que Aman. Et les enfants de Dieu vont connaître le parcours de Mardoché, le peuple juif, malmené, oublié, mais puis honoré, parce que notre roi, il veut nous faire participer, partager son honneur. C'est son cadeau. Mais nous, on sait que l'histoire va se terminer comme ça déjà. On sait parce qu'on a, en fait, on a déjà vécu le grand coup de théâtre. Pour nous, les chrétiens, le coup de théâtre, c'était la croix et la résurrection. C'est là où tu t'as basculé. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut espérer une fin heureuse. C'est vrai, là, Jésus a été pendu sur un bois dans la honte la plus totale. Mais peu après, Dieu l'a mis au sommet du prestige et de l'honneur. Tout le contraire d'Aman. Aman qui recherchait ce prestige, cet honneur, il est fini dans la honte. Mais Christ, en donnant sa vie, en vivant tout le contraire d'Aman par une humilité, sacrifice,
eh bien, il nous sauve et Dieu l'a ressuscité. Donc c'est là, Jésus est la preuve que la loi, cette loi spirituelle dont on parle ce matin, l'orgueil précède la ruine, que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. La croix, c'est la preuve que c'est une vraie loi et que la fin est garantie. Bien sûr, depuis ce coup de théâtre, depuis la résurrection, ça ne veut pas dire que tout est fini. Hein. Même ici, il n'y a que Aman qui est mort. Il reste le décret qui est toujours en vigueur. Le jour va venir où les gens ont droit de massacrer les Juifs. Alors, il y a toujours manière d'agir, de prier, de s'attendre à Dieu, de vivre sa foi. Mardoché et Esther vont le faire dans les chapitres suivants. Toute l'histoire n'a pas fini, mais la victoire est en route. Les Juifs sont toujours un peu en péril. Ils ne sont pas encore officiellement délivrés. Mais avec la fin d'Aman, eh bien, on peut tout espérer. Mais c'est pareil pour nous. Depuis la croix, la victoire est en route. Reste pour nous des combats. Reste pour nous des délivrances. Reste encore des occasions pour nous de chercher la face de Dieu, de s'attendre à lui, de passer par les moments critiques, graves. Mais une chose est sûre, comme les Juifs, Aman ne pouvait plus les toucher. Il a été écrasé. De la même manière, Satan ne peut plus nous toucher. Il a été écrasé à la croix. Et comme Aman, Satan, c'est pareil. Toutes les pires de ses machinations, de ses projets, de ses desseins, eh bien, tout s'est retourné contre lui. Va se retourner contre lui. Ce désir de mettre à mort le Fils de Dieu qu'il a même réussi, eh bien, c'est la pire chose qu'il a pu. C'est complètement retourné contre lui parce que c'est par cette mort et cette croix que Dieu nous délivre et nous sauve. Tout ce qu'il essaie contre Dieu, contre les chrétiens, va se retourner contre lui. Il vous envoie une épreuve. Mais ça va se retourner contre lui parce que vous allez sortir plus saint, plus pur, plus rempli de foi, plus prêt pour le ciel. Tout ce que Satan peut faire va se retourner contre lui comme Aman. Et nous pouvons vivre dans cette foi, dans cette attente, sachant que oui, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.